Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Le pianiste qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires disait ne pas savoir lire une partition et ne jouer qu'à l'oreille. Sa virtuosité a fait sa renommée et sa légende, au point que depuis quelques années, l'industrie du disque réhabilite les œuvres de ce génial instrumentiste en rééditant certains de ses classiques ou en exhumant quelques archives inédites. Ce grand improvisateur s'appelait Errol Garner. Il naquit à Pittsburgh en juin 1921 et quitta ce monde 55 ans plus tard, en janvier 1977. Bien que son passage sur Terre fut assez bref, son jeu a marqué les esprits et continue de susciter la curiosité de pianistes en devenir. Christian Sands, 29 ans, fait partie de ces jeunes talents fascinés par la technique et l'inventivité de l'illustre Errol Garner. Mais avant de l'entendre s'enthousiasmer pour son aîné, remontons le cours de l'histoire. Cette mélodie intitulée Misty est la plus connue d'Errol Garner. Il l'a composée en 1954 et fut adaptée par de nombreux musiciens, mais aussi des chanteurs et chanteuses de renom, dont Johnny Mathis, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Sarah Vaughan ou encore Ella Fitzgerald.
Just holding your hand.
Ce classique de l'histoire du jazz a fait le tour du monde. Et de génération en génération, cette composition a accompagné le développement artistique de milliers de pianistes. Christian Sands ne fait pas exception à la règle. Tout gamin, il entendait cette célèbre mélodie dans la maison familiale.
My grandmother, that was her favorite song.
C'était la chanson préférée de ma grand-mère et mon père l'interprétait régulièrement à la maison. Par conséquent, j'ai toujours eu l'impression de connaître Misty. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à prendre des cours auprès du pianiste Billy Taylor au lycée que j'ai véritablement commencé à m'intéresser à l'histoire du jazz et des pianistes. Évidemment, nous avons évoqué Errol Garner, mais de manière très superficielle. Je ne savais donc toujours pas pourquoi ce pianiste était si réputé. Je ne connaissais rien à sa technique. Je me suis réellement intéressé à l'histoire de ce pianiste, lorsque j'ai commencé à travailler avec la regrettée Jerry Allen. Elle était en charge d'un projet de réhabilitation des œuvres d'Errol Garner. Elle avait même organisé un concert auquel participaient Jason Moran, Victor Lewis et Russell Malone, une sacrée brochette de virtuoses. J'ai été convié à participer à la tournée qui s'ensuivit, et pour préparer cette série de prestations, j'ai eu le privilège de pouvoir converser plusieurs fois avec Jerry Allen. Pendant des heures, elle m'a fait écouter le répertoire d'Errol Garner. Titre après titre, elle me faisait comprendre l'importance de ce pianiste dans l'histoire du jazz. Elle me décrivait le style d'Errol Garner pour que nous puissions lui rendre un vibrant hommage sur scène, mais aussi pour que je m'en inspire dans mon propre jeu. Voilà comment est née toute cette histoire. Cet extrait de concert que vous écoutez actuellement fait partie de ces fameux documents sonores que l'on redécouvre aujourd'hui grâce au travail de restauration de passionnés du jazz. Christian Sands est d'ailleurs depuis peu l'un des ambassadeurs de ce projet de réhabilitation des œuvres d'Errol Garner et a pour mission de faire la promotion de ces rééditions et parutions inédites auprès des médias internationaux. Un rôle qui l'enchante et lui permet d'exprimer son bonheur de voir ce patrimoine inestimable refaire surface aujourd'hui.
Errol's music really crossed all barriers. And I think
pour moi, la musique d'Errol Garner sort de toutes les catégories. Son jeu était exceptionnel et parvenait à toucher un grand public. Il suffit de regarder ses mains sur le clavier à travers des documents d'archives pour se rendre compte de la grandeur du personnage. C'était un petit homme, mais il jouait comme un géant. Parfois, on s'attendait à ce que de la fumée sorte du piano, tant l'énergie qu'il déployait était exceptionnelle. Il jouait à une vitesse insensée, tout en gardant l'humeur joyeuse et festive de sa musique. Ce musicien pouvait vous faire pleurer comme rire d'une minute à l'autre. C'était de surcroît un personnage très drôle. Il s'amusait d'ailleurs, durant les concerts, à improviser certaines notes que ses musiciens n'avaient pas répétées. Évidemment, ils étaient tous morts de rire quand il s'autorisait de tels écarts. Et les spectateurs rigolaient également. C'est ce qui l'a rendu si populaire à l'époque.
Laugh at the same because he's very funny as well, which is, I think, why he was so popular.
Depuis 2015, le répertoire d'Errol Garner est à nouveau mis en relief. La réédition du fameux Concert by the Sea, enregistré en 1955 en Californie, a rappelé au public du 21e siècle que la discographie d'Errol Garner était imposante et suscitait autrefois beaucoup d'engouement. Certains de ses albums dépassaient même le million d'exemplaires vendus. À l'écoute de cette émission, certains d'entre vous doivent se dire « Pourquoi suis-je passé à côté de cet immense pianiste ?» C'est justement la question que se posent nombre de musicologues et historiens. Pourquoi Errol Garner était-il moins connu que ses homologues de l'époque, Duke Ellington ou Count Basie ? Christian Sands tente de résoudre cette énigme.
When you hear his music and you see the numbers of all the people that knew about him and the
quand vous écoutez sa musique et que vous comptabilisez les musiciens qu'il a inspirés, vous ne pouvez que vous interroger. Que s'est-il donc passé pour que ce pianiste n'ait jamais été véritablement considéré comme une légende au même titre que Duke Ellington, par exemple? Cela dit, Jean-Sébastien Bach, en son temps, avait connu la même destinée. Sa musique, à l'époque, n'était absolument pas comprise par ses contemporains. Ce n'est que bien plus tard, lorsque l'on a commencé à réinterpréter ses œuvres, que l'on a commencé à reconnaître l'empreinte sonore de Jean-Sébastien Bach. Aujourd'hui, son nom est devenu universel. C'est un peu la même chose pour Errol Garner. Il était d'abord perçu comme un musicien qui épatait les autres musiciens. Beaucoup de jeunes pianistes se sont inspirés de son jeu. Évidemment, je ne l'ai pas connu, mais pour avoir discuté avec certains de ses vieux amis, notamment George Wynne, le célèbre producteur et organisateur de concerts, Errol Garner semblait être un personnage très attachant et profondément virtuose. Son attitude et sa maestria ont évidemment eu un impact sur ses homologues de l'époque. Il y aura toujours des artistes moins célébrés que d'autres. Tout le monde parle de Louis Armstrong aujourd'hui, mais n'oublions pas son pianiste, Earl Hines, qui lui-même a influencé Errol Garner. Ils avaient un jeu très proche. Earl Hines se servait de la musicalité des trompettistes pour développer ses harmonies pianistiques. Errol Garner faisait exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa légende. Après Errol Garner, de nombreux pianistes ont intégré cette spécificité jazz dans leur propre univers sonore. Alors, pourquoi Errol Garner ne fait pas partie des plus populaires jazzmen du XXe siècle ? Je ne saurais vous répondre. C'est justement ce que j'essaye de comprendre. Certes, on ne pense pas à lui tous les jours, mais on sait qu'il fait partie de l'épopée des musiques noires.
Which is what Errol is known for. So why exactly isn't he amongst the jazz stars, as we say? I'm not really sure why, but that's what I'm trying to figure out. After a certain while, you know, you just kind of not forget about it, but you just know it's there.
La plupart des illustrations musicales qui rythment les propos de Christian Sands aujourd'hui sont extraites d'un concert enregistré à Amsterdam en novembre 1964. Ce document rare est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et chez les disquaires depuis le 13 juillet 2018. La parution de ce disque, Night Concert, est un véritable événement et Christian Sands nous en explique la raison.
Well, I think it's important because he's in the height of his...
C'est un enregistrement important car il est au sommet de son art et cette prestation a eu lieu à la fin de sa vie. Vous entendez sa maîtrise harmonique du piano, sa vélocité, son humour musical et vous ressentez les vibrations du public. Vous remarquerez aussi en écoutant ce concert que Errol Garner ne parle que très peu aux spectateurs. Il ne présente aucune mélodie, ni même ses musiciens. Il dit à peine merci ou bienvenue. Il s'assoit à son piano et joue. D'une certaine manière, il essaye de démontrer que sa musique est un langage universel qui n'appelle pas d'explications ou de commentaires. Souvenons-nous que ce concert a eu lieu à Amsterdam et que même si les spectateurs ne parlaient pas anglais, ils savaient que sa musique créerait la communication. De surcroît, il est à cette époque un artiste dont les œuvres sont connues. Il peut donc se permettre de jouer certains de ses classiques en distordant l'introduction. Il sait que le public reconnaîtra la mélodie de Misty ou de No More Shadows. Il faut par ailleurs rappeler le contexte dans lequel ce concert a eu lieu. Cela se passe au Concertgebouw d'Amsterdam, où pendant toute une semaine de novembre 1964, les spectateurs sont d'abord venus écouter des symphonies de Beethoven et de Joseph Haydn. Et subitement à minuit, ce 7 novembre 1964, ils voient apparaître sur scène un trio de jazzmen afro-américains. Imaginez le choc culturel. Errol Garner décide alors de ne pas se contenter de jouer un simple concert. Ce soir-là, il jouera 2h30 sans interruption. Le public quittera les lieux à 3h du matin avec dans les oreilles la fougue d'un pianiste prodigieux. L'atmosphère devait être électrique et cela en soi est un événement historique. De plus, ces musiciens ont joué sans partition, contrairement aux musiciens des orchestres classiques. Errol Garner et son trio se sont lancés dans des improvisations très longues et parfaitement maîtrisées. À minuit, après Beethoven et Haydn à Amsterdam, un pianiste a écrit une page d'histoire. C'est fantastique.
The city is buzzing about Beethoven, Haydn, and that's what's going on. And at midnight, and this American jazz trio is going to play in Amsterdam. Like, that's just, that sounds really awesome.
Depuis le début de cette émission, nous évoquons la maestria d'Errol Garner. Mais notre interlocuteur du jour, Christian Sens, n'est pas que le porte-parole et admirateur de ce légendaire pianiste. Il a sa propre carrière et tenait à nous présenter son dernier album, Facing Dragons.
The new release is fun. It's very fun. It's an extension.
Mon dernier disque est plutôt fun. Il entre dans la continuité de mes précédents albums. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Marcus Strickland au saxophone et Keyon Harold à la trompette. Je joue personnellement sur un Fender Rhodes et un Orgamon B3. Jerome Jennings nous soutient à la batterie. Je dirais que ce nouveau projet apporte un groove différent à ma musicalité. Il y a une intensité que je n'avais pas éprouvée sur mes précédents albums. J'ai un peu mûri et je pense que ce nouveau disque reflète cette maturité acquise. Le titre de ce disque est Facing Dragons, c'est-à-dire faire face aux dragons. Le dragon, pour moi, représente tous les obstacles que l'on doit affronter au cours d'une vie. Le dragon est en quelque sorte la vérité que vous devez affronter. Ce disque reflète donc ma propre expérience et les moments difficiles que j'ai dû surmonter. Je pense que nous avons tous connu des soubresauts dans notre vie, bons ou mauvais, et il faut savoir les accepter. Ce peut être un déménagement, une séparation, se faire de nouveaux amis, se lancer dans un projet difficile, etc. Il y a donc en chacun de nous cette anxiété qui nous taraude et qui nous pousse à prendre tel ou tel chemin. Si je reste dans ma zone de confort, peut-être le regretterai-je. Mais si je tente une aventure trop périlleuse, peut-être le regretterai-je tout autant. Voilà ce que sont les dragons de notre vie. Ce sont les différentes possibilités ou opportunités qui s'offrent à nous. Libre à nous de ne pas vouloir affronter ces dragons. Mais pourtant, ces dragons nous permettent d'avancer.
Good and bad. And so, you can chase them and chase all the questions and just go nowhere, or you can face them and get to a certain destination. So that's what this is all about. It's everything. It's political. It's about love. It's about,
le dragon peut représenter plusieurs choses. Vous pouvez lui donner une dimension politique ou au contraire romantique. Il peut représenter le racisme, les défis que doivent affronter l'Amérique et le monde. Le dragon peut aussi être un défi pour la paix ou représenter le combat des femmes. J'ai d'ailleurs écrit une chanson à ce sujet sur cet album. J'espère que vos auditrices l'apprécieront. C'est évidemment un slow. Il se trouve que tout au long de ma vie, j'ai été souvent entouré par des femmes. Elles ont eu un impact important sur l'homme que je suis devenu. Ma grand-mère, ma mère, mes tantes, mes cousines, mes amis, mes petites amies ont accompagné au quotidien ma vie d'artiste. Même mon manager est une femme. Elles m'ont conseillé dans les moments de doute et m'ont guidé vers le bon chemin. Je voulais donc leur dédier une composition pour les remercier de leur soutien constant à mon égard et ce qu'elles font plus généralement pour le bien-être de l'humanité. Le dragon peut aussi représenter ce qu'elles doivent endurer en tant que femmes dans un monde d'hommes. Je me suis inspiré notamment d'une mélodie empruntée au répertoire vénézuélien qui évoque le courage de franchir des obstacles et de se rendre dans des contrées qui nous sont inconnues. C'est donc un disque qui couvre bien des aspects de notre vie spirituelle et terrestre.
I appreciate what you guys do. I appreciate what you do for humanity. So that's what this is about. So it's about that.
Comme vous pouvez l'entendre, Christian Sands est certes un fervent défenseur des Roll Garner, mais ses influences dépassent largement le cadre strict du jazz. Elles proviennent de la source originelle.
African. But, as far as,
mes racines sont africaines, mais je reconnais avoir écouté beaucoup de musique cubaine, car ma voisine, qui m'emmenait à l'école lorsque j'étais gamin, quand j'avais raté le bus scolaire, mettait souvent dans l'autoradio des disques de groupes cubains. J'avais donc très tôt dans l'oreille la musicalité latine du jazz. Et puis, quand j'ai commencé à monter des orchestres au lycée ou à l'université, je m'entourais de musiciens brésiliens ou afro-cubains. Par ailleurs, notre professeur de musique nous confiait des disques afro-latins à écouter à la maison. Certains étés, je prenais des cours de percussion pour parfaire mes connaissances musicales. J'apprécie particulièrement la salsa et le merengue, car le public danse durant les concerts. Ce n'est absolument pas la même ambiance dans un club de jazz où chacun sirote son cocktail. Les musiques afro-latines appellent la danse et l'engagement des spectateurs. Quand j'ai eu la chance de me rendre à Cuba, j'ai ressenti cela de manière encore plus flagrante. Je me souviendrai toujours de cet auditorium gigantesque à La Havane, où tout le monde était debout et dansait frénétiquement. Cette humeur musicale-là m'influence énormément, car vous percevez instantanément ce que le public ressent. Vous savez que les spectateurs vibrent réellement sur votre musique. Les musiciens et les spectateurs ne font plus qu'un. C'est un acte d'amour en quelque sorte. C'est incroyable. Peut-être avez-vous reconnu la mélodie d'un classique des Beatles, Yesterday, car Christian Sands, comme ses illustres prédécesseurs, et notamment Errol Garner, adapte les airs populaires du XXe siècle. Toute l'histoire du jazz repose sur une relecture souvent audacieuse de chansons ou compositions légendaires. Errol Garner n'hésitait pas à remodeler les œuvres de George Gershwin, Cole Porter ou Irving Berlin, des airs du musical américain. C'est la raison pour laquelle Christian Sands s'autorise quelques incursions dans la pop musique, car à ses yeux, le jazz est un art majeur qui se nourrit des évolutions et révolutions musicales depuis plus d'un siècle. C'est l'ADN culturel africain-américain.
I believe jazz is the classical music of America.
Je pense que le jazz est la musique classique américaine. Le jazz appartient aux racines noires américaines depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à la ferveur communautaire gospel. Le jazz reflète les côtés négatifs et positifs de la société américaine. Errol Garner est un acteur essentiel de cette forme d'expression née aux États-Unis. Il est toujours très important de raconter l'histoire du jazz, car cela a du sens, surtout aujourd'hui. Le jazz vous rappelle que nous vivons dans le réel. À une époque où les technologies évoluent très vite, il est bon de se souvenir que des gens ont créé le jazz de manière très artisanale et que leur investissement artistique a influé sur notre présent. Certes, il ne faut pas être passéiste, mais connaître son histoire vous permet d'avancer. Ce sont des enseignements utiles pour l'avenir. Le jazz ne cesse d'évoluer et conditionne la créativité d'artistes très divers. Prenez Pharrell Williams. La manière dont il construit ses mélodies me renvoie à Michael Jackson. Et Michael Jackson me renvoie à James Brown. Et James Brown me renvoie à Louis Jordan, etc. etc. Il est donc toujours possible de remonter dans le temps et de constater que chaque artiste est le fruit de ses ancêtres. Et si vous prolongez vos recherches historiques, vous finirez peut-être par tomber sur un disque de Miles Davis. Quand vous écoutez Kendrick Lamar aujourd'hui, n'entendez-vous pas des réminiscences musicales empruntées à John Coltrane ? J'ai d'ailleurs appris qu'il était un grand fan de cet immense saxophoniste. Il faut donc faire l'effort d'aller fouiner dans le passé pour comprendre que Outkast, par exemple, est un groupe qui s'inspire énormément des big band jazz d'antan et que Usher doit beaucoup à Louis Armstrong. Il suffit de dérouler la pelote historique du jazz pour prendre conscience de tout cela.
Thank you. jazz is a type of music where it should be taught.
Le jazz devrait être enseigné de manière orale et artisanale. Je n'ai pas appris le jazz en consultant des livres, j'ai appris en écoutant des disques. Certes, la théorie est utile, mais au départ, il faut développer son oreille. J'ai appris à jouer certaines œuvres classiques uniquement à l'oreille. J'étais un gamin et mon esprit n'était pas encore pollué par un nombre incalculable de parasites sonores entendus ici ou là. Je savais reconnaître à l'oreille un do majeur sans savoir ce que cela représentait réellement sur une partition. Alors oui, quand j'ai appris à déchiffrer les notes sur une portée, cela m'a été profitable. Mais comme je jouais déjà très correctement sans avoir lu quoi que ce soit, je me suis dit que maîtriser le solfège n'était pas une absolue nécessité. J'ai donc le sentiment profond qu'Errol Garner était dans la même situation. Peut-être savait-il lire la musique, mais n'en avait pas besoin. Peut-être sa virtuosité était-elle suffisante. Peut-être savait-il magnifier une composition écrite en l'interprétant à sa manière. Peut-être la rendait-il de toute façon encore plus belle.
Or just make something else that is even better than what was written, which is cool too.
Quelques notes de Cheek to Cheek, immortalisées par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en 1956, et totalement réinventées ici par Errol Garner lors de ce fameux concert du 7 novembre 1964 au Concertgebouw d'Amsterdam, extrait du Night Concert paru chez Mac Avenue, tout comme l'album de notre conteur du jour, Christian Sands, dont je vous recommande donc Facing Dragons. Si les propos et la musique de Christian Sands vous ont donné envie d'en savoir plus, je vous informe que vous pourrez l'applaudir les 9 et 10 novembre au Duc des Lombards à Paris, mais aussi à Prague, Milan, Munich, Stuttgart, Londres, jusqu'à fin novembre. Jouera-t-il des œuvres d'Errol Garner ? Le suspense reste entier. Puisque j'en suis à vous donner des rendez-vous, notez ces deux concerts. D'abord le quartet du batteur guadeloupéen Sonny Troupé le 27 septembre à la Petite Halle à Paris. Et le saxophoniste camerounais Roger Comme, ancien partenaire de Manu Dibango, Fela Kuti et Tony Allen, le 29 septembre à la salle Le Curial à Paris dans le 19e. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation très pianistique de cette épopée Errol Garner. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.